de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter les nouvelles d'aujourd'hui. Il y a quelques événements importants à informer, entre autres. L'Allemagne met fin à son programme de tests gratuits du coronavirus en octobre. Louange à l'Égypte, Joe Biden envisage une aide militaire. La Corée du Sud enregistre un record de COVID-19, 2223 cas par jour. Évitez la police, des Birmans sont morts après avoir sauté d'un immeuble. 30 étudiants indonésiens enfermés sur le campus chinois. 113 citoyens timorais orientaux ont été expulsés via le Mountain Perben. Et l'Indonésie atteint un excédent commercial de 10,37 billions de roupies par rapport à la Suisse. Bonjour, Gitar, voici les nouvelles en complet. L'Allemagne met fin à son programme de tests gratuits du coronavirus en octobre. Le gouvernement allemand a mis fin au programme de tests COVID gratuitement en octobre 2021. Les autorités allemandes ont accepté d'arrêter ce programme afin d'encourager les citoyens allemands à se faire vacciner. Selon l'AFP, un test corona ou une preuve des résultats de la vaccination est nécessaire pour que les citoyens allemands puissent entrer dans les restaurants, cinémas, centres de fitness et autres. À partir d'octobre, les citoyens allemands qui refusent de se faire vacciner devront payer une somme d'argent pour un test COVID. Une preuve du test COVID est requise pour les citoyens qui souhaitent exercer des activités dans des zones où il y a 35 sur 100 000 personnes pendant 7 jours. Les enfants et les personnes qui ne peuvent pas être vaccinées pour des raisons de santé bénéficient toujours de tests COVID gratuits. Le pays le plus peuplé d'Europe a atteint son objectif de 1 million de vaccinations par jour. Mardi 11 août, au moins 52 millions de personnes, soit 62,5% de la population, avaient reçu une dose de vaccin. La cancelière allemande Angela Merkel a exhorté les citoyens à diffuser le programme de vaccination contre la COVID-19. Louange à l'Égypte, Joe Biden envisage une aide militaire. Le gouvernement américain appelle l'Égypte un partenaire de défense constructif pour assurer la sécurité dans la région frontalière. Les États-Unis ont également félicité l'Égypte pour avoir modernisé les hélicoptères Apache afin de maintenir la sécurité des frontières. C'est ce qu'a déclaré le sous-secrétaire adjoint à la défense pour le Moyen-Orient, Dan Asrul. Cité par le Times of Israel mercredi 11 août, le département d'État américain et le responsable du Pentagone ont expliqué que le président américain Joe Biden envisageait de renoncer à l'aide militaire de 300 millions de dollars que le Congrès a liée aux normes des droits de l'homme. Biden a fait des droits de l'homme une priorité dans ses pourparlers avec l'Égypte. Sewell a fait ses remarques en réponse au sénateur démocrate Chris Murphy, qui a mis en doute l'Égypte dans la coopération militaire. Selon Murphy, les États-Unis doivent prêter attention aux questions des droits de l'homme si l'Égypte n'est pas disposée à faire face aux conséquences. La Corée du Sud enregistre un record de COVID-19, 2223 cas par jour. La Corée du Sud a signalé plus de 2200 cas quotidiens de COVID-19, le chiffre le plus élevé depuis le début de la pandémie. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Santé, Kon Deok-chol, mercredi. Ce pays lutte contre la dernière épidémie du coronavirus déclenchée par la variante Delta, qui est hautement contagieuse. Malgré la mise en place de restrictions strictes pendant plus d'un mois, les cas d'infection continuent d'augmenter. Autre delta, selon Kwan, le volume élevé de voyages antérieurs en été est le déclencheur de l'augmentation des cas. Il a également noté que l'augmentation des épandeurs silencieux dans les communautés comme les lieux de travail, les gymnases intérieurs, les églises et les maisons de soins infirmiers a entraîné une augmentation de cas d'infection d'origine inconnue. La Corée du Sud se bat depuis juillet pour résoudre une épidémie sporadique de COVID-19 qui était initialement centrée dans la ville métropole Séoul, mais s'est maintenant propagée à travers le pays. L'Agence coréenne de contrôle et de prévention des maladies KDCA a signalé mardi 2223 nouveaux cas. Portant le nombre total de cas de COVID-19 dans le pays à 216 206, avec 2135 décès. Éviter la police, des Birmans sont morts après avoir sauté d'un immeuble. Les médias birmans ont rapporté que 3 personnes ont été tuées et 2 autres grièvement blessées après avoir sauté du haut d'un immeuble d'appartement à Yangon. Les hommes ont tenté d'échapper à la poursuite des forces de sécurité depuis que l'armée a renversé le gouvernement d'Aung San Suu Kyi. En février, la Birmanie a été frappée par des troubles sociaux et politiques, avec des manifestations presque chaque jour et des affrontements entre l'armée et les milices qui se sont produits après le coup d'État. Mercredi 11 août, le média local Myanmar Now a rapporté que les jeunes avaient sauté du haut d'un immeuble dans le quartier Botathaung de Yangon. Myanmar Now a ajouté que les 2 blessés avaient été transportés en ambulance. Sur les réseaux sociaux Facebook, RFA Radio Free Asia, financé par les États-Unis, a signalé que l'incident impliquait 5 personnes, à savoir 4 hommes et une femme qui sont décédées plus tard. L'organisation militante de l'association d'assistance aux prisonniers politiques a noté que jusqu'à présent, les forces de sécurité de la Birmanie ont tué 965 personnes. Mais la junte nie ces chiffres et dit que de nombreux soldats sont morts. 30 étudiants indonésiens enfermés sur le campus chinois Au moins 30 étudiants d'Indonésie à Nanjing, en Chine, ont été enfermés à l'intérieur du campus pendant la période de vacances de fin de semestre. Depuis que la variante Delta est apparue dans la capitale provinciale de Nanjing le 20 juillet, la sécurité sur le campus est si stricte que les étudiants ne peuvent pas prendre les vacances de fin de semestre. C'est ce qu'a déclaré Mahmoud Yunus, un étudiant du Jiangsu Institute of Commerce à Nanjing mercredi 11 août. L'étudiant de Banjarmasin dans le sud de Kalimantan a déclaré que pendant le confinement, les cantines et les supermarchés du campus avaient été ouverts, même s'il n'y avait pas d'activité de conférence. Les approvisionnements de besoins quotidiens sont également suffisants. Les étudiants qui restent dans le dortoir du campus tous les jours subissent le même test PCR que les citoyens qui vivent dans toute la région de la ville de Nanjing. Pendant ce temps, l'attaché pour l'éducation, la culture, la recherche et la technologie de l'ambassade d'Indonésie à Pékin, Yahya Sutaria, a admis qu'il n'était pas inquiet de la condition des étudiants indonésiens qui vivaient encore dans diverses régions de Chine, car ils ont tous été vaccinés. 113 citoyens timorais orientaux ont été expulsés via la montagne Pelben. L'Agence nationale de gestion des frontières, BNPP, a déclaré que pas moins de 113 citoyens timorais orientaux ont été expulsés par le poste frontière de l'État de Motaine Peaben dans la région de Belu, dans la province de Nusa Tenggara orientale. Le député de BNPP pour la gestion des frontières de l'État, Robert Simbolon, dans sa déclaration reçue par intérim à Jakarta mercredi, a déclaré qu'ils avaient été expulsés pour empêcher l'apparition d'un nouveau cluster de COVID-19 à la frontière nationale. Le chef de Pelben, Motaine, a assisté à la remise des 113 citoyens timorais de l'autorité indonésienne de l'immigration à ses collègues du côté timorais. Au total, 113 citoyens du Timor oriental sont membres de la branche Belu de Pencasilat Setiahati. Ils ont pénétré illégalement sur le territoire indonésien dans le but de participer aux activités de ratification de nouvelles adhésions et d'augmentation des niveaux ou des ceintures. Pendant ce temps, le sous-adjoint à la gestion transfrontalière de BNPP, Murtono, a déclaré qu'ils avaient quitté le territoire indonésien et étaient entrés dans leur pays de manière ordonnée. L'Indonésie atteigne un excédent commercial de 10,37 billions de roupies par rapport à la Suisse. L'Indonésie a atteint un excédent de sa balance commerciale de 10,37 billions de roupies par rapport à la Suisse au premier semestre de cette année, janvier jusqu'à juin 2021. Il y a eu une augmentation de la valeur des exportations indonésiennes vers la Suisse dans presque tous les principaux produits d'exportation, à l'exception des métaux précieux, des bijoux et des pierres précieuses. C'est selon une déclaration écrite de l'ambassade d'Indonésie à Berne reçue à Jakarta mercredi. Les exportations de métaux précieux, des bijoux et des pierres précieuses ont connu une baisse significative, passant de 14,97 billions de roupies au premier semestre 2020 à 9,58 billions de roupies au cours de la même période cette année. Cependant, une augmentation significative des exportations s'est produite dans les huiles essentielles, les meubles, les produits textiles tricotés et les chaussures qui étaient respectivement de 36%, 22%, 17% et 15%. L'ambassadeur indonésien en Suisse et au Liechtenstein, Mulyaman Haddad, estime qu'au troisième et quatrième trimestre 2021, la balance commerciale augmentera encore comme à la même période l'année dernière. Bon, chers auditeurs, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui.
16 ritok bonsoir, voici le commentaire ayant pour le titre La société anonyme Pertamina peut-elle gérer le bloc Rokan? La société anonyme Pertamina a officiellement repris la gestion du bloc de Rokan à l'ancien opérateur, la société anonyme Chevron Pacific Indonesia, filiale de Chevron Corp, une multinationale de l'énergie. Depuis lundi 9 août, la gestion du champ pétrolifère du bloc Rokan dans la province de Riau, Sumatra et dans la société anonyme Pertamina Hulu Rokan. Le ministre de l'Énergie et des Ressources Minérales, Arifin Tasrif, a déclaré que le transfert du bloc Rokan de la société anonyme Chevron Pacific Indonesia à la société anonyme Pertamina était une étape importante dans l'histoire de l'industrie pétrolière et gazière en amont en Indonésie. Aujourd'hui, le gouvernement a confié la gestion du bloc de Rokan à la société anonyme Pertamina. La question est de savoir si la société anonyme Pertamina Hulu Rokan est capable de gérer le bloc Rokan et de maintenir la production de pétrole ou même de dépasser la production totale de pétrole jusqu'à présent. Sur la base des données de l'unité de travail spécial ou SKK sur le pétrole et le gaz en juin 2021, lorsqu'il était encore géré par la société anonyme Chevron Pacific Indonesia, le bloc de Rokan produisait environ 165 000 barils de pétrole par jour, soit environ 24% de la production nationale de pétrole. Le plus grand défi pour la société anonyme Pertamina est de maintenir les chiffres de production de pétrole qui ont été atteints jusqu'à présent, voire de pouvoir augmenter les chiffres de production à l'avenir. Bien sûr, maintenir les chiffres de production jusqu'à présent n'est pas facile. Par conséquent, dans le compte Instagram officiel @Pertamina, mercredi, le président Joko Widodo a demandé à la société anonyme Pertamina de travailler dur pour maintenir la durabilité du bloc Rokan. La société anonyme Pertamina doit travailler dur de peur que l'expérience de la société anonyme Pertamina lors de la reprise du bloc de Mahakam ne se reproduit pas. Lorsque la société anonyme Pertamina a repris le bloc Mahakam, la production de pétrole a chuté de manière drastique. S'il y a une baisse de la production, cela créera un mauvais précédent. Pour augmenter la production post-transfert de gestion, la société anonyme Pertamina vise à forer 161 nouveaux puits au cours de la période août-décembre 2021, de sorte que l'on espère que le bloc de Rokan maintiendra les chiffres de production atteints jusqu'à présent et deviendra l'un des principaux producteurs de pétrole national. Pour réaliser ou atteindre l'objectif, la société anonyme Pertamina a besoin de recruter des ressources humaines qualifiées qui comprennent la gestion de blocs pétroliers. En outre, la société anonyme Pertamina doit utiliser une technologie sophistiquée ou de moins sa capacité est au niveau de la technologie utilisée par Chevron dans la gestion des puits de pétrole. La société anonyme Pertamina Hulu Rokan doit être capable de montrer au monde qu'elle est capable de gérer le bloc Rokan, dépassant même les chiffres de production produits par la société anonyme Chevron Pacific Indonesia jusqu'à présent. Ainsi, la société anonyme Pertamina pourra soutenir la sécurité énergétique nationale. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen takudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
F- Förhindrande di übertragung skater des COVID-19 virus, durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons avec l'événement la naissance de Mohamed Hatta le 10 août 1902. Mohamed Hatta était un combattant, l'homme d'État, l'économiste et le premier vice-président d'Indonésie. Mohamed Hatta et Soekarno ont joué un rôle important pour libérer la nation d'Indonésie du colonialisme néerlandais et a proclamé le 17 août 1945. Hatta est également connu comme le père des coopératives indonésiennes. L'aéroport international de Tanggang, Banten, l'aéroport Soekarno-Hatta, a utilisé son nom pour rendre hommage à ses mérites. En plus d'être inscrit en Indonésie, le nom de Mohamed Hatta a également été immortalisé aux Pays-Bas, notamment comme le nom d'une rue du quartier résidentiel de Zuiderpolder, Harlem, sous le nom de Mohamed Hatta Straat. Notre information est sur le vol 123 de Japan Airlines s'est écrasé le 10 août 1985. Le vol 123 de Japan Airlines s'est écrasé sur le mont Takamagahara dans la préfecture de Guna au Japon, 100 km de Tokyo, le 12 août 1985. Tous les 15 membres de l'équipage sont morts et 509 passagers sont morts avec un total décès de 520 personnes. Il y avait 4 survivants. JAL 123 a décollé de l'aéroport de Haneda à 18h12 heure locale. Lorsque l'avion survolait la baie de Sagami, la cloison arrière de fuselage arrière s'est cassée. Le détachement de cette queue a endommagé l'ensemble du système hydraulique de l'avion dans son ensemble et a fait planer l'avion de manière incontrôlable pendant environ 30 minutes avant de s'écraser sur une montagne. Nous finissons l'histoire du jour avec l'événement du 12 août 2000, la commémoration de la Journée mondiale de la jeunesse. La Journée mondiale de la jeunesse a été commémorée pour la première fois le 12 août 2000. Elle a été initiée par les Nations Unies en 1999 en adoptant la résolution 54/120. La commémoration reconnaît l'importance de la participation des jeunes au processus politique, économique et sociaux. À l'occasion de la Journée mondiale de la jeunesse, des concerts, des ateliers, des événements culturels et des réunions impliquant les représentants des gouvernements nationaux et locaux et des organisations de jeunesse ont lieu dans le monde entier. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
International de Voice of Indonesia 2021. Voice of Indonesia organise à nouveau un quiz. C'est quiz international de Voice of Indonesia 2021. Gagnez des prix attractifs et des prix de consolation de Voice of Indonesia. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web www.voinews.id. Bonne chance!
tak pernah berubah. Kau masih saja dengan beran yang kau tak suka. Apa kata ayah? Jadi pembatas ruang gerakmu berkarya. Maksud hatiku ingin bebaskanmu. Sekilas yang aku dengar, sekilas yang aku dengar.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
C'est bonsoir, voici Mon Indonésie et pour le titre, KLHK décrit les réalisations dans l'élimination de mercure en Indonésie. La directrice générale de la gestion des ordures, des déchets et des matières toxiques dans Zorros, ou PSLB3, du ministère de l'Environnement et des Forêts, KLHK, Rosa Vivienne Ratnawati, a expliqué les réalisations de l'élimination du mercure en Indonésie. Lors d'une conférence virtuelle, mardi le 10 août, Vivienne a expliqué que l'Indonésie disposait d'un plan d'action national pour la réduction et l'élimination du mercure, ou RAN PPM, depuis 2019, qui a donné des résultats ces dernières années. L'utilisation de mercure dans l'extraction d'or à petite échelle a été réduite de 2019 à 2020 de 10,45 tonnes. Sur la base du rapport sur la mise en œuvre de RAN PPM 2020, la réduction de l'utilisation de mercure pour 2020 dans l'industrie de l'éclairage et des batteries atteint 374,4 kg. De plus, la réduction des émissions contenant du mercure dans le domaine énergétique prioritaire est de 719 kg. La suppression des dispositifs médicaux contenant du mercure tels que les osages de pression artérielle et de température corporelle a été réduite de 4,73 tonnes. Vivienne expliquait que les problèmes environnementaux et sanitaires causés par l'utilisation, le réseau et l'émission de mercure sont un problème mondial. L'Indonésie a ratifié la loi numéro 11 de 2017 concernant la ratification de la Convention de Minamata sur le mercure qui a ensuite été suivie par le plan d'action national pour la réduction et l'élimination du mercure au rang PPM. L'Indonésie accueillera également la quatrième réunion de la conférence des parties ou COP4 de la Convention de Minamata sur le mercure. La conférence se tiendra virtuellement en novembre 2021 et en mars 2022 en présentiel à Bali. Selon Vivienne, l'Indonésie continuera de s'engager à réduire et à supprimer l'utilisation du mercure. La Convention de Minamata sur le mercure est un traité international conçu pour protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets du mercure pouvant causer la maladie de Minamata. Le pacte a été adopté et ouvert à la signature le 10 octobre 2013. Ce pacte a été signé par 128 pays. Minamata est un syndrome de dysfonctionnement neurologique causé par un empoisonnement aigu au mercure qui peut provoquer la paralysie et la folie. La maladie tire son nom de la ville du Japon où la maladie a commencé en 1958. La maladie de Minamata est causée par les dommages environnementaux causés par le déversement depuis des décennies de grandes quantités de déchets de mercure par les usines chimiques de la région. Serge Ritter, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Bila kita masih bersama, mengapa hatiku merasa sendiri? Mencoba untuk melangkah pergi, berharap sang rindu panggil cinta lagi. Namun sepertinya kau telah berpaling. Buat apa mencoba untuk bertahan bila kau tak cinta aku lagi? Sama jadi percuma. Buat apa berjanji untuk kembali bila hatimu tak di sini lagi? Lelah menanti sesuatu yang tak pasti. Lemahku di gantung asmara, sirna dan perlahan padamkan bara hati. Apa arti berlari bila ku berharap kau datang kembali? Namun sepertinya kau telah berpaling. Jadi percuma. Buat apa mencoba? Kau cinta aku lagi. Semua jadi percuma. Buat apa berjanji lagi bila hatimu tak di sini lagi? Semua jadi. Sepenuh
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter les magazines culturels. Bonne écoute!
Bonsoir, chers auditeurs de la Voix d'Indonésie. Nous nous retrouvons dans notre programme favori, le magazine culturel. Cette fois-ci, nous allons vous inviter à visiter le village Tete Batu. Le village de Tete Batu dans le district de Mas Bagik, l'Est de Lombok, Nusa Tenggara West, UNTB, est le représentant de l'Indonésie dans l'événement du meilleur village touristique de l'OMT ou Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies 2021. La participation du village touristique de Tete Batu a été confirmée après avoir rempli tous les documents requis pour les concours et enregistré auprès du ministère du tourisme et de l'économie créative. Le président de l'Association de villages touristiques de Nusa Tenggara West, Ahyak Aminuddin, a expliqué que Tete Batu est digne de représenter l'Indonésie à l'événement car il s'agit de l'étape initiale dans la création de villages touristiques à l'est de Lombok. Le village de Tete Batu est un village touristique depuis l'époque hollandaise. L'emplacement est sur le mont Rinjani avec une altitude d'environ 700 mètres au-dessus du niveau de la mer. Dans le passé, les premiers Européens venus à Mataram l'utilisent comme lieu de repos en raison de sa fraîcheur et de sa tranquillité. Pour se rendre au village, les touristes doivent prendre environ 1h30 en véhicule à moteur depuis le centre-ville de Mataram ou 2h depuis l'aéroport international de Lombok. Pour visiter le village touristique de Tete Batu, aussi long que l'œil peut voir, vous verrez les chambres de riz des résidents. Situé au pied du mont Rinjani, Tete Batu offre l'atmosphère rurale, calme et fraîche où les visiteurs peuvent se promener dans le village à travers les rizières verdoyantes tout en profitant de sa belle nature. Si quelqu'un aime la photographie, veuillez visiter cet endroit dans l'après-midi pour prendre une photo de l'atmosphère du crépuscule au coucher du soleil avec le magnifique arrière-fond du mont Rinjani. En plus de profiter de la vue sur les rizières et les montagnes, les visiteurs peuvent également observer les oiseaux et visiter la forêt des singes. Il existe également des attractions touristiques intéressantes à visiter, telles que la cascade Ulem-Ulem, la cascade de l'oiseau des rondelles, la cascade Kokok Duren, la cascade Semedeye et la cascade Jeruk Manis. Le trajet jusqu'à la cascade passera par la zone du village et les rizières en terrasse. Chers auditeurs, à Tete Batu, les visiteurs peuvent également se promener dans le village et voir les plantations appartenant à la population locale telles que le café, le cacao, les clous de girofle et la vanille. Tete Batu est également connu comme un village avec des plantations horticoles. L'un de ses produits principaux est la muscade, dont l'un est transformé en fruits confits pour les souvenirs. Tete Batu est également l'un des itinéraires des randonnées non officielles menant au mont Rinjani. Si les visiteurs veulent monter au mont Rinjani avec une vue différente, ils peuvent utiliser cet itinéraire. Sepandang la sanction de la route a tete batu n'est pas autorisée pour atteindre le sommet de la montagne. Parce qu'il a été désigné comme une zone touristique depuis longtemps, Tete Batu a déjà fourni des logements et des chambres d'hôtes chez les résidents. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À demain!
International de Voice of Indonesia 2021. Voice of Indonesia organise un nouveau un quiz. C'est quiz international de Voice of Indonesia 2021. Gagnez des prix attractifs et des prix de consolation de Voice of Indonesia. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web www.voinews.id. Bonne chance!
Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, on va sur la rubrique l'Indonésie en couleur, intitulée Un café de spécialité indonésien est ouvert en Égypte. Le premier café de spécialité indonésien, Villa Sumatra, était ouvert en Égypte le dimanche 8 août dans le cadre des efforts intensifs de diplomatie du café de l'ambassade d'Indonésie au Caire. Le café, qui est situé dans le quartier d'élite du Medical Park 1er du Nouveau Caire, sert spécifiquement une variété de café indonésien de haute qualité de type Arabica, différent des grands cafés Robusta qui ont été importés par de nombreuses entreprises de café égyptiennes. L'ambassadeur indonésien en Égypte, M. Lutfi Raouf, a déclaré que le gouvernement continuera à apporter un soutien et une attention totale aux acteurs du secteur de café, notamment aux militants du café indonésien en Égypte. Le fondateur et propriétaire de la Villa Sumatra, Haitham Saukat Hussein, a l'intention de retourner en Indonésie pour trouver et apporter plus d'autres cafés de qualité supérieure répartis à Sumatra, Sulawesi, Java, Flores et Papouasie. En outre, il cible également le marché des produits à base de plants indonésiens. Haitham a révélé qu'il avait également besoin de baristas fiables et qualifiés pour pouvoir mélanger une variété de cafés indonésiens de qualité supérieure dans son magasin qu'il prévoit d'augmenter à l'avenir. L'Indonésie est le quatrième de meilleurs baristas dans le monde. Devrait ouvrir une formation et des ateliers de renforcement de capacité dans le domaine du café de qualité supérieure pour former des baristas locaux en Égypte. L'attaché commercial de l'ambassade d'Indonésie au Caire, Irman Adi, a expliqué que l'inauguration du premier café-restaurant phare d'Indonésie était une nouvelle percée dans des programmes de diplomatie du café indonésien en Égypte. Le café peut promouvoir et commercialiser une variété de cafés de qualité supérieure originaire d'Indonésie, tels que le café Sumatra Gayo, le miel de Sinabung, le Lintong, le Karo, le vin de Sinabung, le Long Berry et le Kaskara. Chers amis, c'était la rubrique L'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour le magazine musical. Et je vais vous présenter une chanson de Humania. Chers auditeurs, à l'époque des années 1990, la musique indonésienne a été animée par Humania qui portait le New Jazz. Le duo composé d'Eki Puradireja et Eru Singhi avait son premier album intitulé Tersra, qui est sorti en 1994. La chanson intitulée Tersra est devenue un succès à l'époque. Comment pourrais-je ne pas? À cette époque, Oumania est venu avec le genre de musique nu jazz et le thème de l'humanité était différent de la musique qui était populaire à cette époque. La formule proposée par Oumania a réussi à attirer l'attention des auditeurs de musique indonésienne. Mon cher auditeur, voici Oumania va chanter une chanson intitulée Tersra. Bonne écoute.
Murder style in the yes, no. We're gonna echo the hero. We're gonna jam here on the microphone style. Ah,
chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde.
sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voindonesia, d'Instagram @voice.of.indonesia, joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube Voice Indonesia et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.